Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Alors aujourd'hui, on est avec Jacques Lefort.
Bonjour.
Et on va parler de plusieurs sujets, bon, de la Garrigue bien évidemment, comme tous les 15 jours sur l'antenne, mais aussi plus particulièrement de l'approche des terroirs et comment ce concept de terroir est lié aussi à nos espaces de Garrigue, comment on peut construire un petit peu cette image de terroir des Garrigues. Et on va parler ensuite plus particulièrement d'un événement qui a lieu ce week-end à Valflaunès, qui est la 8e Festa de la Vendémia, la fête de la vendange en Pic-Saint-Loup. Donc, on va voir maintenant avec Jacques, qui va nous raconter un petit peu et déjà son parcours, mais aussi un peu plus particulièrement cette notion de terroir et le contenu de cette fête des vendanges. Alors, Jacques, peut-être si tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens, comment tu t'es intéressé à ce sujet-là.
Bonjour, donc mon nom est Jacques Lefort, je suis un ancien chercheur du CIRAD, en agronomie, plus exactement en économie agroalimentaire, j'ai longtemps travaillé en coopération internationale dans le cadre de ce centre de recherche agronomique pour le développement qui est basé à Montpellier. C'était une longue carrière consistant à travailler avec de nombreux pays, sur une dynamique et un fil directeur qui était celui de ce que nous appelions et ce que nous appelons toujours les systèmes agraires et qui sont donc l'ensemble composé des hommes vivant en milieu rural, de leurs activités, des territoires concernés, de la façon dont tout cet ensemble complexe fonctionne. Et j'ai donc travaillé une longue carrière sur ce fil directeur-là, à partir de ce fil directeur-là. Puis j'ai pris une pré-retraite, enfin plutôt une activité autre dans un musée qui s'est créé à l'époque par un grand homme, un homme pour qui j'ai une immense admiration, qui était Louis Malassi, et qui avait créé un musée qui s'appelait Agropolis Museum. Malheureusement, pour des raisons diverses et plutôt administratives qu'autre chose, ce musée a été malheureusement fermé et n'existe plus, ce qui est très dommage pour Montpellier et sa région, puisque c'était un des seuls musées au monde qui parlait d'alimentation et de territoire. Et il y en a deux ou trois dans le monde, et c'était probablement un des plus importants. Montpellier étant quand même une capitale agronomique de recherche internationale de premier rang, supprimer ce musée était probablement une erreur politique. Bon, enfin, c'est comme ça.
Alors, du coup, tu as étudié un petit peu les systèmes agraires, justement, d'un peu partout dans le monde ?
J'ai étudié ou participé à des études de systèmes agraires dans le monde, et notamment des dynamiques de ces systèmes agraires dans les changements économiques actuels qui sont brutaux et parfois assez violents dans de nombreux pays avec lesquels nous travaillons, notamment les pays du Sud. Et donc j'ai été amené à travailler sur ce qu'on appelait notamment le développement local, ce qu'on appelle toujours le développement local, c'est-à-dire comment ces systèmes agraires évoluent, se tordent, se déforme et évolue dans le cadre d'une mondialisation et d'une évolution politique, économique, locale. Voilà.
D'accord. Et du coup, comment tu es arrivé petit à petit aux Garrigues ?
Comment je suis arrivé aux Garrigues ? Il est clair que lorsqu'on travaille dans le monde, c'est un peu comme la mondialisation, il n'y a rien de plus passionnant que de se référer à un territoire où on s'accroche parce que sinon, on est un peu dispersé, on perd un peu ses repères. Et j'ai trouvé que ce territoire, qui n'était pas le mien d'origine, puisque je suis arrivé dans ces Garrigues dans les années 1975, et venant de Paris, où j'avais fait un début de carrière assez long déjà, et ces Garrigues m'ont passionné très vite, parce que j'ai trouvé là un territoire extrêmement intéressant, qui, pour des tas de raisons, était en cours de mutation forte depuis les années 50-60, et même auparavant d'ailleurs, il faut bien le dire. Et ces mutations correspondaient pour certains, on le voyait, à une sorte de dégradation immuable, disaient même, je me souviens de réflexions de certains élus à l'époque disant, mais les Cévennes, on voit ce que c'est, les Garrigues, ça n'existe pas. Mmh. C'était déjà un territoire en voie de, entre guillemets, d'abandon, de disparition. Pour d'autres, alors c'est là où j'étais très intéressé dans les années 75-80, c'est que j'ai commencé à connaître des gens qui voyaient dans ces Garrigues la possibilité d'y faire des choses. Alors les premiers, les tout premiers qui ont vu des choses pouvant être faites, à mon avis, c'était les vignerons. Mmh. Et quelques éleveurs, mais beaucoup plus rares. Mais les vignerons, notamment au Pic-Saint-Loup, qui ont fait un travail absolument remarquable, puisqu'ils sont partis de ces Garrigues pour les transformer en un vignoble qui aujourd'hui est un grand vignoble au niveau français. Donc c'est assez stupéfiant qu'en moins de 40 ans, ils aient pu faire cette révolution locale, ce que j'ai vu dans les pays divers, dans les processus de développement local, est quand même un processus en général très lent et très long. 30-40 ans, c'est très court, et là, ce qu'ont fait les vignerons au Pic-Saint-Loup, c'est remarquable. Ceci étant, le processus ne peut pas s'arrêter là, bien on en reparlera.
D'accord. Alors peut-être, si on reste un petit peu sur cette vision globale, est-ce que des dynamiques comme on peut voir le type de système agraire des Garrigues, est-ce que tu l'as retrouvé dans d'autres pays, dans d'autres contextes?
Peu, sauf peut-être dans les pays pastoraux, vraiment pastoraux, où on a des espaces très grands avec des densités de population très faibles, ce qui était l'image des Garrigues que j'ai trouvée en 1975, même si déjà les villages proches de Montpellier connaissaient des accroissements de population spectaculaires. Les autres villages et les autres communes avaient des densités de population très faibles, puisqu'on va de 25-30 habitants au kilomètre carré à 3 habitants dans le Val de la Bège ou sur le Causse de l'Ortus. Donc on est sur des zones à population très faible. On est de toute façon dans des zones, par définition, de type rural. Mais, pour dans la définition française, un peu académique française, mais au plan international, une partie des Garrigues est très clairement proche de ce que j'ai pu observer dans certaines régions pastorales. Ceci étant, la dynamique n'était quand même pas du tout la même. Dans les régions pastorales que j'ai connues dans les pays en développement, en général, le pastoralisme était encore très vivant. Or, dans les Garrigues, il avait progressivement disparu et très fortement disparu dans les années 50-60, où là, la sanction avait été très sévère. Et donc, on se trouvait dans un pays pastoral qui n'avait plus beaucoup de pastoralisme, déjà. Donc, et ça ne s'est pas arrangé depuis, je dirais, sur un plan global. Donc c'était quand même assez différent. D'autre part, il y a une autre différence avec les pays dans lesquels j'ai travaillé, c'est que les pays dans lesquels je travaillais, les régions d'un type un peu pastoral dans lesquels j'ai travaillé, faisaient partie de pays qu'on appelait en développement. C'était des pays qui doivent faire face à une mutation extrêmement sévère de par la mondialisation en cours. Or, dans les années 70, quand je suis arrivé en France, la France n'était pas du tout un pays en mutation ni en développement. C'était un pays aisé, riche, d'économie épanouie. Et donc, sauver les Garrigues n'intéressait pas grand monde, puisque de toute façon, l'ensemble du pays pouvait très bien compenser le fait qu'une région comme ça pouvait crever, pouvait mourir. Mmh. Je considère, je ne crois pas me tromper, qu'aujourd'hui, le contexte a profondément changé. La France est dans une mutation économique qui pose le problème de son développement, même si, apparemment, tout le monde ne s'en rend pas compte et ne veut pas le savoir. La France est en un problème sérieux de mutation et donc doit faire face à une volonté, ou rechercher une volonté de développement réel. Et si on considère et si on regarde clairement le contexte mondial et le contexte national, on s'aperçoit que les ressorts du développement qui réussissent le plus dans les exemples que l'on a dans le monde actuellement, sont des ressorts régionaux, locaux et nationaux, et non pas des ressorts, des ressources et des ressorts venant de la captation de quoi que ce soit de la mondialisation. La mondialisation est un phénomène d'échange, mais ce n'est pas une dynamique d'impulsion économique. Donc l'impulsion économique, il faut que nous la trouvions nous-mêmes, et non pas croire qu'on va la trouver dans un refuge, dans la mondialisation elle-même, tout simplement.
D'accord. Alors, on va venir maintenant plutôt sur une approche plutôt de la notion de terroir, mais on va s'écouter une petite musique avant ça.
Soy el quebrale, mano negra,
clandestina,
argelino,
clandestino,
mexicano,
clandestino,
marihuana,
ilegal.
Perdido en el quebrale, mano negra,
clandestina,
boliviano,
clandestino,
peruano,
clandestino,
marihuana,
ilegal.
Albanese, clandestino, boliviano, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana ilegal. Gracias, gracias.
Alors, c'était Manu Chao sur Radio Escapade. Et nous sommes avec Jacques Lefort sur cette émission Escapade en Garrigue. Et Jacques, là, donc, du coup, l'idée, c'est de nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un terroir.
Oui, alors je vais raconter un peu tout à l'heure ma petite existence. Et je veux dire qu'après l'expérience d'Agropolis Museum, j'ai rencontré des hommes tout à fait remarquables, dont le président d'une association qui s'appelait Terroir International. Bon, terroir et culture, tout d'abord, et qui est devenu maintenant Terroir International. Et Planète Terroir, plus exactement le nom officiel du réseau qui a été monté. Cet homme s'appelait Dominique Chardon, c'est un agriculteur de la région de Nîmes, des Costières du Gard, et qui pratique lui-même une agriculture biodynamique, d'ailleurs pour l'essentiel, axée sur la polyculture. Et notamment le maraîchage, la vigne, l'olivier et l'arboriculture fruitière. Cet homme avait créé une dynamique qui était de rassembler en quelque sorte les expériences d'un certain nombre de terroirs et de les mettre en commun de façon à provoquer une dynamique pouvant susciter en quelque sorte des vocations de terroirs dans le monde. Alors pourquoi des terroirs ? Alors les terroirs, qu'est-ce que c'est ? C'est ça la première question intéressante, comme tu le disais. Les terroirs, c'est une notion qui a été d'ailleurs définie à une certaine époque, dans les années 2005 à peu près, notamment par l'association, puis reprise par l'UNESCO. En gros, pour simplifier un peu, les terroirs, c'est une sorte d'association entre un territoire, d'abord, et une communauté humaine. La communauté humaine de ce territoire met en œuvre un développement disons, de ses activités dans ce territoire, en s'appuyant sur les potentialités locales essentiellement, et sur des savoir-faire et des savoirs culturels, mais techniques, etc., qui sont d'origine locale ou qui sont le résultat de certains nombre d'innovations, puisque les sociétés évoluent, elles innovent, et tant mieux, c'est même très important. Et donc, les terroirs sont des sortes de territoires en mouvement et en recherche de potentialités qui s'expriment par des produits marqués par ce territoire, donc marqués par une identité, ce qu'on appelle une typicité, c'est-à-dire des caractères typiques, en quelque sorte, de ce territoire. Et ces produits ont été l'objet, dans l'histoire récente, de labellisation pour certains d'entre eux, ce qu'on a appelé les indications géographiques, essentiellement, puisque c'est lié au territoire. Mais certaines labellisations ne sont pas forcément uniquement géographiques, mais elles peuvent l'être. Les plus célèbres sont les appellations d'origine contrôlée ou appellations d'origine protégée, puisque maintenant c'est le terme officiel européen. Et
très courant dans les vins, notamment, par exemple.
Ah, très courant dans les vins, mais dans les fromages également. Aussi. Très, très courant dans les fromages, et puis courant maintenant, fort heureusement, dans un certain nombre d'autres produits. Et donc, les terroirs ont connu en Europe, essentiellement d'ailleurs à l'origine en France et en Italie, puisque ce sont les deux premiers pays qui ont développé des indications géographiques, donc ces appellations d'origine protégée notamment. Et les IGP aussi, les indications géographiques protégées, qui sont une autre forme de protection, légèrement moins rigoureuse que l'appellation d'origine protégée, qui suppose que le produit soit produit, transformé, conditionné totalement dans le territoire. Donc les indications géographiques, les IGP, n'ont pas une obligation aussi rigoureuse. Il peut y avoir des points qui échappent au territoire.
C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges derrière chacune de ces
alors,
appellations.
Chaque appellation a un cahier des charges avec un syndicat et un cahier des charges qui est très attaché au terroir, bien sûr, de production et aux différents savoir-faire qui sont concernés. Et tout syndicat de producteurs d'un produit AOP a un cahier des charges extrêmement rigoureux avec beaucoup de contrôles et qui permettent d'avoir pour le consommateur et pour le marché plus globalement des garanties concernant ce produit.
Ce n'est pas qu'une marque.
Ce n'est pas une marque. Une marque peut être délocalisée. Une marque peut se retrouver au bout du monde avec la même marque, avec le même process, donc le même savoir-faire. Un AOP ne peut pas être délocalisé puisque la typicité, c'est-à-dire les caractères liés au territoire, est fondamentalement dans le cahier des charges. Le cahier des charges comporte des savoir-faire, mais aussi et surtout toute une typicité, la définition de typicité qui est attachée au territoire. Donc la différence entre une marque et une appellation d'origine protégée, c'est très important, puisque la marque peut être délocalisée, l'appellation d'origine protégée ne peut pas être délocalisée. D'accord. Or, ce qui nous a beaucoup intéressé dans cette notion d'indication géographique, et derrière dans la notion de terroir qui supporte, qui est le soutien de l'appellation des indications géographiques, c'est que, justement, il s'agit bien d'un développement local. Il ne s'agit pas d'un développement, point, économique, que l'on peut éventuellement, en fonction des volontés des financiers, changer de place au gré des différents critères de compétitivité, puisque c'est essentiellement ce qui joue actuellement dans la confrontation entre les produits. Ce qui est important, c'est qu'on s'est aperçu que l'on a un outil qui est un outil extrêmement intéressant pour favoriser et consolider un développement local. Et donc, ce qui nous a intéressé dans l'association et dans le réseau Planète Terroir, qui continue de vivre d'ailleurs, et ce qui a intéressé beaucoup Dominique Chardon, qui est donc le créateur, ainsi qu'Éric Barraud, qui est toujours le pilier de ce réseau. Ce qui intéressait beaucoup ces gens-là, c'est d'avoir un outil pour un véritable développement local.
D'accord. Et donc, du coup, quand on dit terroir, il peut y avoir plusieurs produits.
Quand on dit terroir, il peut y avoir plusieurs produits. Il y a des terroirs qui ont plusieurs produits. Il y a aussi des terroirs qui s'enchevêtrent. Donc, la notion de terroir n'est pas une notion délimitée comme un territoire approprié par des hommes, puisque la notion de territoire est liée à l'appropriation par des communautés humaines, c'est la définition même du territoire. La notion de terroir est un peu plus complexe que ça, dans la mesure où elle s'appuie effectivement sur des territoires, elle est dans un territoire, mais elle peut représenter des configurations géographiques qui s'enchevêtrent, même se superposent, ce qui n'est pas en soi gênant, en fonction des besoins et des identités, des différents types de production qui peuvent être agricoles. Mmh. Par exemple, une production telle que, je ne sais pas moi, le piment d'Espelette dans les Pays Basques est une appellation d'origine protégée sur un terroir qui est parfaitement bien délimité. Le Pélardon, cher à nos garrigues, est un terroir à cheval entre un grand terroir de Cévennes et un terroir de garrigues, avec une AOP qui est donc celle du Pélardon. Dans les vins le vin du Pic-Saint-Loup est une AOP appuyée sur un terroir, avec à l'intérieur du terroir d'ailleurs des différences qui permettent d'avoir aussi des sous-ensembles qui ont leur propre typicité, ce qui est toute la richesse des terroirs, c'est de pouvoir se décliner en fin de compte en sous-ensembles, en appuyant toujours ce même raisonnement qui sont les caractéristiques physiques, mais aussi les caractéristiques humaines et les savoir-faire qui accompagnent la valorisation de ces caractères physiques, disons sol, climat, écologie, même biodiversité dans un certain nombre de cas. Les terroirs ne touchent pas que l'agriculture ni l'élevage. Elles touchent aussi l'artisanat, le tourisme. Il n'y a pas d'appellation d'origine protégée dans l'artisanat, dans l'industrie et dans le tourisme. Pas en France. Certains pays sont peut-être plus avancés que la France dans ce domaine-là. Je pense au Brésil qui a, lui, mis des AOP sur des produits artisanaux. La France ne l'a pas encore fait, mais on y pense. Je crois que l'INAO, qui est l'organisme habilité à travailler sur ces AOP, qui est beaucoup plus compétente que moi, que je ne peux l'être, je crois, se pose cette question, parce que c'est vrai que le couteau de l'aïeul n'aurait pas eu sa mésaventure de couteau fabriqué à Thiers, et surtout en Asie, dans différents pays, si le couteau de l'aïeul avait pu bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Parce que lorsqu'on a une appellation d'origine protégée, là aussi c'est un autre trait très important, c'est que on ne peut pas avoir quelqu'un qui, à l'autre bout du monde ou un peu plus loin, veut faire exactement la même chose. Ce ne sera pas la même chose, parce qu'il n'y a pas le terroir. Et certains terroirs se sont même amarmés, je pense au Champagne, puisque ce sont des AOP, il y a une grande AOP Champagne, ou bien au Roquefort, ou je sais pas, Château du Pape dans les vins, se sont même armés pour juridiquement aller contrôler tous les essais de copie qu'il peut y avoir dans le monde et les poursuivre, ce qui est assez efficace d'ailleurs.
D'accord. Et donc, du coup, en quoi les garrigues pourraient être un terroir ?
Les garrigues pourraient être des terroirs, d'abord. Le grand territoire des garrigues pourrait se décliner en un certain nombre de terroirs, c'est-à-dire de pôles de développement local s'appuyant sur des capacités. Les garrigues ont un certain nombre de caractéristiques qui en font un territoire qui a ses limites et ses points forts. J'avais fait il y a quelques temps un petit exercice dans ce domaine en cherchant les points forts et les points faibles des garrigues. D'abord, je disais qu'un des points forts des garrigues, c'est qu'elles ont une identité naturelle. Une identité naturelle très forte, avec des paysages remarquables, une biodiversité exceptionnelle, mais vous avez dû en parler déjà abondamment, des conditions naturelles très spécifiques, vous le savez, avec cette empreinte méditerranéenne très forte, mais aussi cette empreinte continentale très forte. C'est-à-dire, c'est une Méditerranée continentalisée, ce qui est quand même assez intéressant. On retrouve ça dans quelques terroirs de territoires de l'arrière des Hautes-Provence ou du Haut-Languedoc, avec des excès en matière de pluie, ça c'est méditerranéen, mais des excès en termes de chaleur et des excès en termes de froid. C'est assez paradoxal et intéressant, ce qui peut permettre de soutenir d'ailleurs des productions tout à fait exceptionnelles, parce que, un petit parenthèse, j'ai le droit de faire des parenthèses,
moi,
je pense,
sûr.
Petite parenthèse, les grands crus sont souvent des crus produits dans des conditions qui sont un peu marginales pour la plante. Je prends un exemple. Les grands cafés arabica, les plus grands, ceux qui ont des arômes extraordinaires, sont des caféiers produits en montagne, là où la limite est quasiment liée à l'altitude et au froid. Et lorsque les caféiers sont là où, en principe, ils peuvent presque geler, eh bien, ils sont excellents.
D'accord.
C'est un peu la même chose pour la vigne, je dirais. Plus il y a du caillou, plus elle doit chercher profondément, creuser, aller chercher très loin, plus il y a des risques de continentalité et de froid, plus elle peut exprimer aussi des capacités exceptionnelles. Enfin, du moins, dans la définition du vin, à la base, maintenant, l'énologie a fait des miracles et fait des vins exceptionnels avec des conditions de terroir qui ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est autre chose. Donc, forte identité naturelle des garrigues. Il faut ajouter à ça un phénomène beaucoup plus récent qui est le dynamisme géographique. Mmh. Il y a d'abord un apport de croissance des différentes grosses communes, ce qu'on peut rappeler une petite croissance urbaine, et notamment dans la périphérie de Montpellier. Des apports de populations allochtones venant d'ailleurs, qui s'est implanté dans des garrigues. Et puis, toujours dans ce dynamisme démographique, il y a un tissu associatif qui, peu à peu, est devenu très important. Et ça m'a beaucoup frappé, venant donc dans ces garrigues autour du Pic Saint-Loup, de voir la dynamique associative ici, qui était nettement supérieure à la région parisienne où j'étais auparavant, où la dynamique associative était beaucoup plus faible à l'époque. C'était pas du tout comparable. Ensuite, il y a aussi une autre caractéristique en termes de points forts, c'est une proximité de l'agglomération de Montpellier, ou de Nîmes pour certains coins de garrigues, ce qui donne des emplois extérieurs, ce qui permet à des gens d'y résider, mais on parlera tout à l'heure des inconvénients que ça peut avoir, et d'un impact sur la culture et sur les loisirs. C'est-à-dire on peut développer certains traits culturels des garrigues et les faire vivre grâce à l'appui de populations urbaines voisines. Ensuite, en économie, il y a également des points forts. D'abord, il y a un dynamisme vitivinicole, ou vini-viticole, qui est une image maintenant positive et attractive pour le territoire. Il est clair que ce que je disais tout à l'heure sur les vins du Pic-Saint-Loup se reproduit ailleurs. Maintenant, il y en a de magnifiques du côté de, je sais pas, de l'Uzège, d'Abuège, qui sont des vins superbes et qui donnent aussi une grande valeur à ces territoires. Ces dynamiques viticoles a permis aussi de développer une richesse locale, et pas seulement une image, puisqu'on a maintenant un enrichissement très clair des territoires viticoles, et puis de développer de l'emploi. Et pourquoi le développement de l'emploi ? Alors ça, c'est intéressant, parce que beaucoup de régions agricoles, je pense aux régions céréalières, on peut développer l'emploi. Pourquoi ici, on a développé l'emploi agricole ? Parce que il y a un phénomène qui est lié à la notion même de terroir, c'est que la transformation locale du produit est une règle très forte dans les terroirs. Et à partir du moment où on développe une transformation locale du produit, on augmente considérablement le besoin en main-d'œuvre. Et deuxièmement, il y a aussi le souci de qualité qui est lié au terroir. C'est-à-dire que si on veut développer la typicité, c'est-à-dire le marquage de l'identité du produit, on est obligé de développer sa qualité et en faire des vins de qualité qui s'appuient sur un territoire, qui exprime ce territoire. Ça aussi, ça suppose de la main-d'œuvre. Parce qu'il faut faire des tailles à tel moment, il faut faire... Enfin, bon, je ne vais pas détailler toute la production viticole, sinon on passerait du temps. Ça développe la main-d'œuvre. On considère couramment que dans certains domaines, notamment le domaine viticole, le passage sur des indications géographiques, notamment des appellations d'origine protégée, peut multiplier la main-d'œuvre par 4 ou 5.
D'accord.
Donc c'est un phénomène mécanique de développement qui se mesure même en termes d'emploi. Ensuite, il y a, dans les points forts des garrigues, il y a le potentiel touristique avec un début de mise en valeur, même si cette mise en valeur se cherche un peu. Heureusement, les garrigues n'ont pas été sensibles pour l'instant aux sirènes d'un tourisme industriel, probablement parce que le tourisme industriel s'intéressait peu à cette terre dans la mesure où il n'y avait pas beaucoup d'eau pour faire du tourisme aquatique, qui est quand même la grande mode du tourisme industriel. Et on a un terrain qui est assez disponible pour un tourisme intéressant qui aujourd'hui se développe, qui est le, disons en gros, on peut appeler ça l'écotourisme, l'agrotourisme, le tourisme de terroir. Il y a aussi des petits diverticules, l'énotourisme, etc. Voilà. Et enfin, je l'ai dit déjà, la proximité économique de l'agglomération de Montpellier ou de Nîmes donne à ce terroir un marché de consommation qui n'est pas négligeable, de proximité, ce qui est très important, ce qui est très important le développement local. En bio, on peut développer les ventes directes ou les ventes de proximité. On est dans des processus de développement local qui sont grandement facilités. À partir du moment où on fait de la vente directe ou de la vente de proximité, on se développe une capacité financière immédiate qui permet en fin de compte une trésorerie qui permet d'aborder des marchés plus ambitieux. C'est comme ça. Les points faibles de la garrigue. Eh bien, le point faible, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est une espèce d'érosion de l'identité. D'abord par la fermeture des paysages, mais ça vous avez dû en parler.
Oui, c'est un phénomène. Souvent.
Souvent. Bon, ça, j'imagine. C'est une érosion d'identité. L'identité est érodée par... Enfin, le mot érodé, je ne sais pas si tout le monde le comprend bien, c'est-à-dire il est mangé, il est bouffé, il a disparu. Quoi. Bon. Il y a également la perte de la biodiversité, vous avez dû en parler aussi, mais qui est d'ailleurs liée au cas précédent, au mécanisme précédent. Et enfin, l'empreinte urbaine, de plus en plus pénalisante, selon la maîtrise, elle peut être même très pénalisante, puisqu'elle peut consister en des empreintes urbaines... sur le plan paysager ou de la biodiversité totalement parasite, ou des empreintes urbaines extrêmement étalées qui posent des problèmes de non-maîtrise des paysages après, qui sont évidents. Il y a également un autre point faible, c'est le vieillissement de la population. On a une population jeune qui a été quand même très largement insuffisante depuis plusieurs générations, on peut dire, de par le départ des jeunes puisqu'il n'y a pas d'activité, et de par qu'on a donc une dominante de vieux, et pendant... longtemps avant, par exemple, que la viticulture AOP prenne sa place, l'avenir des vignerons, c'était de vendre leur parcelle à la construction. Donc c'est le seul avenir. Donc ils avaient un potentiel, qui était le potentiel foncier, donc un potentiel de construction possible. C'était ça, leur avenir économique. On est dans le domaine de l'absurde, mais c'est la réalité. Ensuite, il y a un autre point faible, c'est la proximité de l'agglomération, que j'ai cité en point fort tout à l'heure. Il faut le citer en point faible. Les emplois sont extérieurs avec un coût économique et écologique très important des déplacements quotidiens pour rejoindre des emplois. Ça, c'est extrêmement grave. Et puis, avec les déplacements pendulaires, ce qu'on appelle. Et enfin, il faut parler du chômage des jeunes, qui est très élevé dans l'Augarigue. Pourquoi ? Parce que les perspectives d'emploi ne sont pas encore significatives, à part des poches. J'ai parlé des AOP. Mmh. On pourrait parler de quelques dynamiques locales qui sont encore assez modestes. Et en dehors de ça, on a un manque d'emploi pour les jeunes, qui font qu'on a des taux de chômage qui sont très élevés. Il faut ajouter à cela, comme point faible, une diversité économique qui est faible, et avec la quasi-monoculture de la vigne, la quasi-disparition de l'élevage, la faiblesse de diversification alimentaire, un tourisme encore modeste, et une économie verte faible, malgré un potentiel existant. Et enfin, je terminerai sur les points faibles, sur la faiblesse des qualifications. C'est-à-dire qu'actuellement, on s'aperçoit que les jeunes qui sont ici ont des qualifications qui sont totalement inadaptées à la mise en valeur des garrigues. Donc ça, c'est un problème aussi dont on pourra parler.
D'accord. Alors, on va s'écouter une petite musique et on va revenir plus particulièrement sur la viticulture autour du Pic Saint-Loup. Thank you. On est avec Jacques Lefort, et donc on a vu cette notion de terroir dans... Quel était un peu ce concept, et puis en quoi justement les garrigues pourraient être un terroir avec ses points forts et ses points faibles. Maintenant, on va plonger, on va dire, dans les vignes du Pic-Saint-Loup, un peu comprendre en quelques mots cette évolution assez particulière qu'il y a autour du Pic-Saint-Loup et nous expliquer la fête de la vendange, d'où elle vient dans ce contexte-là et qu'est-ce qui est prévu à ce moment-là.
Bon, je peux dire quelques mots sur la dynamique du Pic-Saint-Loup. Je ne suis pas un spécialiste des vins ni du Pic-Saint-Loup et je n'ai pas d'autorité pour en parler. Mais je peux dire que la dynamique qui s'est créée pour arriver à faire les vins du Pic-Saint-Loup est une dynamique que je considère comme assez exemplaire et comme un très bon exemple d'une dynamique d'émergence d'un terroir. Il y a eu plusieurs phénomènes qui ont joué. D'abord, une certaine tradition viticole ancienne qui, avec des efforts de vin de qualité qui ont lieu à plusieurs reprises, je me souviens de travaux de mes manissiers qui avaient même été portés des vins du Pic-Saint-Loup à Paris lors de la foire exposition et qui avaient obtenu un prix d'ailleurs au nom de ces vins qu'il appelait du Pic-Saint-Loup. Et dans les années 20 ou 30. Et puis, je me souviens aussi de ce qui a été fait par un de mes gens, qui avait fait un gros travail sur Claret à propos de ces vins. Et donc, il y avait une certaine accroche historique, capacité de reprendre un peu, de revenir là-dessus. Ensuite, il y a eu une communauté humaine qui s'est constituée avec plusieurs vignerons, qui sont aujourd'hui des gens, évidemment, qui sont plus âgés, mais qui ont fait preuve à la fois d'une solidarité très solide et d'une dynamique, un sens de l'aventure, un désir de prendre des risques et de faire des choses, qui a été tout à fait remarquable. Alors, je ne vais pas les citer parce que je pourrais en oublier, mais il faut dire que ce petit groupe, à cheval entre, disons, depuis les villages de Claret, Loret, Valfenès, Saint-Mathieu, etc., a été très, très fort et a créé une véritable dynamique très, très marquée. Troisième élément, c'est que c'est une période où on se posait des questions sur l'avenir du vignoble. Donc, on a eu des soutiens économiques, financiers, nationaux, etc., qui ont permis d'entrer une restructuration complète du vignoble, pour restructurer le vignoble et remettre des conditions de production en termes de cépage, de conditions de production, de palissage, etc., totalement innovants, et qui ont permis d'aborder le problème de la typicité et de la capacité d'exprimer, en choisissant bien sûr aussi les sols, d'exprimer la qualité des sols les meilleurs, argilo-calcaires essentiellement, mais qui sont les sols du Pic-Saint-Loup, et en tenant compte des positions, différentes positions sur les coteaux ou sur les zones un peu plus basses, et qui ont permis de sortir à partir de là des vins de qualité. Alors ces différents éléments, en fin de compte, sont des éléments qu'on retrouve dans pas mal de terroirs, et c'est très intéressant de voir comment on peut s'appuyer sur des dynamiques, des groupes d'hommes qui ont envie, d'hommes et de femmes qui ont envie que ça bouge, entre guillemets, qui ont envie de faire des choses, en s'appuyant sur leur territoire, et qui croient à leur territoire et à son devenir. Et c'est ce qui s'est passé avec le vin du Pic-Saint-Loup, et c'est un exemple que je trouve toujours remarquable. Et ce que j'ajoute, c'est que les gens du Pic-Saint-Loup ont très vite compris qu'il fallait qu'ils aillent au bout de leur logique, c'est-à-dire qu'ils transforment les conditions de production à partir du sol et du plan, mais qu'ils aillent jusqu'à la bouteille, son bouchon et son étiquette. C'est-à-dire qu'ils fassent tout le processus qui aille depuis le pied de vigne jusqu'au vin mis en bouteille, et axé sur la qualité et la typicité par rapport au territoire et au terroir. Et ça, c'est un exemple en quelque sorte, parce que si on ne suit pas cette dynamique, cette volonté de prendre un produit et d'aller jusqu'à sa valorisation complète, on ne récupère pas, on ne localise pas la filière du produit, c'est un jargon, mais comment on ne situe pas dans le territoire l'ensemble de la transformation du produit, ce qu'on appelle en jargon localiser une filière, et à ce moment-là, tous les les ressorts d'un développement économique local nous échappent.
D'accord. C'est effectivement cette question de la transformation, on la cite souvent comme étant un moyen vraiment de valoriser économiquement une production locale.
C'est fondamental. Les vrais terroirs ont la transformation locale, ou une première transformation quand c'est les produits qui ne peuvent pas être fortement transformés. Parfois la transformation complète, comme les fromages, qui est un exemple remarquable. Les bons fromages de terroir sont les fromages transformés, conditionnés sur place. Et ça, c'est clair, et ça fait des produits qui sont marqués d'une grande typicité de par les conditions de la production, mais aussi par les conditions du savoir-faire en termes de transformation.
Et du coup, la Festa des Vendémias, fête de
la Fête de la Vendange est née en 2008 à partir d'une idée qui avait circulé d'ailleurs dans des cercles autour de terroir et culture dans les années 2007, puisqu'il y avait eu d'autres exemples en France de dynamique de fête, pas forcément autour des vendanges, mais autour de d'autres productions, etc., qui m'avaient beaucoup intéressé, qu'à l'époque je visitais puisque j'allais les voir. Et l'idée nous est venue, enfin m'est venue, mais avec d'autres amis du Pic Saint-Loup, essentiellement d'ailleurs un noyau partant de Val-Flonesse. Et étant à Val-Flonesse, qui est un énorme village vigneron, parce qu'il y a 14 ou 15 caves particulières, donc c'est le gros village vigneron du Pic Saint-Loup. Et à partir de Val-Flonesse, on a eu l'idée de créer une fête qu'on a appelée la Festa de Vendemia, parce que le fait de la mettre dans un nom qui était enraciné, en quelque sorte, était aussi une garantie que cette fête joue un rôle dans le développement local. La volonté de la Festa del Vendemio, c'est d'avoir une fête qui joue un rôle, effectivement, dans une dynamique de développement, à travers la culture, et dans cette fête, nous, chaque année, 90 bénévoles, parce que c'est le chiffre actuel, se dépensent pour mettre en place 4-5 expositions originales basées sur le patrimoine local. Cette année, il est important de citer les expositions parce qu'elles sont tout à fait évocatrices du patrimoine local. On a reconstitué une cuisine ancienne en Pic Saint-Loup avec tous les objets, le cadre, la cheminée, tout. Vous verriez, c'est une pure merveille. Allez-y, c'est magnifique. Tous les objets y sont, c'est un plaisir. Ensuite, on a fait une salle sur la révolution de 1789 dans les garrigues du Pic Saint-Loup, tout aussi magnifique. Alors ça, vraiment, avec la reconstitution d'un intérieur, disons, d'un grand bourgeois, on a pris l'exemple de la famille Durand, qui était une grande famille de Val-Flonesse, et dont le fils, Jean-Jacques Louis Durand, a été élu premier maire de Montpellier.
D'accord.
Et cette élection du premier maire de Montpellier a fait que Jean-Jacques Louis Durand a conduit la commune de Montpellier. Il était, comment dire, régionaliste, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire girondin, à l'époque, on disait. Et il est monté à Paris, voulant défendre sa cause dans des moments un peu troublés. Mal lui en a pris, parce qu'arrivé à Paris, il a été rapidement jugé et guillotiné. On n'aimait pas beaucoup les girondins. Le jacobinisme parisien ne supportait pas les girondins. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé, mais c'était comme ça à l'époque. Le troisième exposition intéressante, c'est l'atelier rural de mécanique générale qui reconstitue un peu les éléments d'un atelier, d'un garage de village en quelque sorte, avec tout son matériel et, dans le village. Ensuite, nous avons aussi une exposition sur de la carrière de pierre au bâti traditionnel, en partant un peu des éléments de la pierre ici et comment on s'en est servi et on s'en sert encore pour le bâti traditionnel. Il y aura certainement des tâches à faire. Un caveau vigneron de 1930 qui existe toujours et qui est en exposition permanente. Une petite boutique éphémère qui permet de vendre des objets d'ici, la vie d'ici. J'insiste sur la révolution de 1789, puisque ce soir, il y a une conférence débat à 20h30 à Val-Flonesse sur la révolution dans nos garrigues et à Montpellier. Ça risque d'être très intéressant parce que l'expo a pu bénéficier de la découverte de manuscrits et d'affiches de l'époque révolutionnaires qui sont tout à fait remarquables.
Donc à retenir, ce vendredi 16 octobre à 20h30 à la salle du château à Val-Flonesse.
Enfin, dimanche, c'est la grande fête. Dimanche, c'est la grande fête et cette fête, c'est une grande fête vigneronne. Il y a d'abord, il faut le dire, une trentaine de vignerons, c'est-à-dire une grande partie des vignerons du Pic Saint-Loup, parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ils sont une trentaine qui sont présents à la fête, et qui font déguster leur vin et qui les vendent. ils ont chacun une barrique devant eux et ils ont la capacité de faire déguster et de vendre. Ensuite, toujours en termes de vin, dans l'après-midi, vers 16h, il y a un grand défilé de la confrérie viticole, la confrérie des Tastevins du Pic-Saint-Loup, qui s'appelle les Chevaliers de l'Aïsset. L'Aïsset, c'est une petite outil, une petite herminette qui a été utilisée par les vignerons pour la barrique. Et ces Chevaliers de l'Aïsset vont défiler, précédés par un groupe traditionnel, un groupe folklorique qui s'appelle la Garrigue. Garrigo, c'est un groupe très beau, en costume traditionnel, avec musique traditionnelle, et qui fait toutes les danses relatives au vin, danse de la treille, etc. C'est très beau à voir. Ensuite, bon, il y a un marché de terroir dans les rues de Valflonnes. On a reconstitué un ancien café du village, le café Écoulé, et on sert à manger, à boire, etc. dans ce café. Les gens peuvent tirer des pique-niques de leur sac et manger sur les tables qu'on a mis partout dans le village. Et enfin, il y a deux capacités de restauration plus classiques. D'une part, la Belle Vigne, qui est le bar à vin toujours présent à Valflonnes toute l'année, mais qui ce jour-là, bien sûr, est complètement dans la fête. Et enfin, un restaurant avec un traiteur, le Délice des Princes, sur la place de la mairie, où on peut réserver à l'avance ou bien aller sur place acheter un repas. Et c'est des repas de qualité. Il y a une dizaine d'orchestres dans les rues, alors de toutes sortes de musiques, acoustiques bien sûr, dans les rues qui circulent. Il y a une dizaine d'orchestres qui circulent dans tous les sens et qui donnent une ambiance extrêmement festive à l'ensemble, avec des danses, etc. Il y a un espace occitan avec un balletti, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un lieu de danse traditionnelle animé par Biscan Pass, qui est de la musique traditionnelle à danser. Et puis, bien sûr, il y a des chassiers avec les scandaleuses, il y a des promenades attelées en char à banc avec deux beaux chevaux, il y a Toto le clown, il y a des balades en poney, enfin, pour les enfants, il y a aussi pas mal de choses. Il y a des démonstrations équestres le matin par les cavaliers de la plaine. Enfin, une journée de fête abondante et riche, et on vous encourage à venir en profiter à partir de 10h du matin jusqu'à 18h du soir. Nous vous accueillons bien volontiers.
Et à noter aussi que demain, samedi 17 octobre, avec le collectif des Garrigues, il y a l'organisation d'une sortie sur la question de la cueillette en Garrigue, la cueillette des plantes en Garrigue, avec plusieurs visions, on va dire, de la cueillette, plusieurs regards sur la cueillette qui seront apportés par des botanistes, par des spécialistes de la cueillette, amateurs ou professionnels, et un temps d'échange autour de tout ça, et bien évidemment un apéritif et un repas partagé. Donc ça, c'est demain, le 17 octobre, à partir de 9h. Le départ, c'est au restaurant La Belle Vigne, à 9h.
Voilà. Et à la fin du repas partagé, tous les participants pourront visiter ou iront visiter dans une visite organisée la fameuse exposition sur la cuisine d'autrefois qui conclura bien cette matinée de découverte des aliments des Garrigues.
Donc un beau programme, une fête à ne pas rater. Et ben, merci beaucoup Jacques, et puis à très bientôt sur Escapade en Garrigues.
Et à dimanche.
Et à dimanche bien sûr.